Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Félix Antoine Tshisekedi à New York depuis hier. Le président de la RDC va participer à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Devant la tribune, le chef de l'État congolais va revenir notamment sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec ses retombées, signale sa porte-parole Tina Salama. Fini la grève des enseignants dans le Tanganyika. Après 3 semaines, les cours reprennent ce lundi dans toutes les écoles publiques de la province. Selon les syndicats des enseignants, le gouvernement a répondu favorablement à leurs revendications. Au Sud Kivu cependant, toujours pas de compromis entre le banc syndical et les autorités provinciales de l'EPST. Et puis, Jean-Pierre Lacroix est l'invité de ce journal. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU vient de boucler sa visite de 5 jours en RDC. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, il revient sur les grandes conclusions de sa mission au pays. Madame, Messieurs, bonjour. Le président Félix Antoine Tshisekedi séjourne à New York depuis dimanche matin. C'est pour participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies. Le chef de l'État congolais est attendu dans son message sur d'importantes questions, notamment les efforts qu'il déploie en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que sur la collaboration entre le pouvoir de Kinshasa et la MONUSCO. Par ailleurs, la RDC attend son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Écoutez à ce sujet Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, propos recueillis par Jude Mister Bilanda.
Une intense activité politique et diplomatique attend le président de la République en marge de sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Des réunions bilatérales sont prévues avec d'autres chefs d'État ou des gouvernements, donc de premiers ministres, notamment avec la Pologne. Ce sera en tout cas le premier rendez-vous, on va dire, bilatéral, où donc des accords pourraient être signés, on va dire des discussions sont en cours en matière de numérisation et de surveillance des frontières. En ce qui concerne le discours du président de la République devant la tribune des Nations Unies, il peut revenir bien évidemment sur la situation sécuritaire à l'est du pays et ses retombées, notamment la crise humanitaire catastrophique. Son discours sera également axé sur nos minerais stratégiques, l'environnement ou la RDC comme pays solution, d'autres conflits qui touchent le monde, notamment le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien. Il parlera également de sa politique basée sur le genre, donc la promotion de la femme, et bien évidemment sur la candidature de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme. Ça aura lieu d'ici début octobre.
Entre-temps, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a clôturé vendredi sa mission en RDC. Jean-Pierre Lacroix appelle tous les acteurs impliqués dans la crise à soutenir les efforts diplomatiques en cours avec la mise en œuvre du cessez-le-feu afin d'aboutir au retour de la paix dans l'est de la RDC. Ce message est contenu dans un communiqué publié par le bureau du porte-parole de la MONUSCO. Détail avec Jude Mister Bilanda.
Ces communiqués indiquent que du lundi au mardi, M. Lacroix a rencontré les chefs de l'État congolais, le président de l'Assemblée nationale, la première ministre et la ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, il a salué l'excellente collaboration entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies et a abordé l'évolution future de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix.
La question d'extension du mandat de la MONUSCO va être examinée au Conseil de sécurité. Dans cette perspective, et comme d'habitude, nous devons préparer avec la MONUSCO le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité.
Dans l'est de la RDC, M. Lacroix a eu des échanges productifs avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, les leaderships de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique australe, ainsi que les commandements du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Le secrétaire général adjoint en charge des opérations de paix s'est rendu jeudi à Sake, à 27 km de Goma, afin de visiter la base de la MONUSCO. Vendredi à Chomia, dans les territoires de Djougou, en Ituri, Jean-Pierre Lacroix a visité un projet de cohésion sociale axé sur la pisciculture financé et soutenu par la MONUSCO. Durant son séjour en RDC, Jean-Pierre Lacroix a eu des réunions avec les acteurs politiques, la société civile, y compris les confessions religieuses, la communauté diplomatique et les représentants des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies en RDC.
Le monde a célébré samedi 21 septembre la Journée internationale de la paix. À cette occasion, à Beni, le Parlement des jeunes a organisé une conférence débat autour du thème « Promouvoir la culture de paix ». Alphonse Wikongo, un des orateurs, a dans son exposé affirmé que les conflits qui rongent la société constituent une entorse à la promotion de la culture de la paix dans la région de l'Est. Et pour parvenir à une paix durable, il propose l'implication de tous, particulièrement des parents, afin de garantir la paix dans la société future. Alphonse Wikongo explique sa pensée au micro de Sadiki Aboubakar.
Les parents ont un grand rôle à jouer pour la culture de la paix dans notre région parce que bien qu'il y a une formation que les enfants peuvent recevoir à l'école, bien qu'ils peuvent apprendre quelque chose dans la société, mais les parents ont aussi un grand rôle à jouer dans cette culture de la paix que nous sommes en train de souhaiter dans la région. Parce que plus les parents parlent à leurs enfants, plus les parents se comportent à modèle, plus les parents jouent correctement leur rôle, moi je pense que la base que quelqu'un a déjà à partir de sa maison, à partir de son toit paternel, a aussi un grand rôle à jouer sur son mental, parce que tout un problème du mental. Si on essayait de travailler sur un bon mental de nos enfants, peut-être que ces violences qu'on est en train de traverser n'auront plus de plans dans notre communauté.
Et puis, les Congolais, une fois unis autour d'un défi majeur sur les intérêts de la République, ce défi a toujours été surmonté malgré les difficultés et ils s'en sortent tête haute. Ces propos sont de Fiou Ndondoboni, président national du parti Orange. Il s'exprimait ainsi ce week-end devant la presse à Kinshasa. Selon lui, les agresseurs de la RDC passent leur temps à démontrer à travers le monde que le problème du Congo, c'est la division entre Congolais, ce qui est faux, dit-il, car le Congolais demeure uni face aux exigences qui touchent sa souveraineté et son intégrité territoriale. Voilà pourquoi il se donne la mission de consulter tous les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile en général, afin de collecter leurs différentes perceptions pour sortir le pays de cette crise qui perdure. Fiou Ndondoboni s'explique dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
S'appuyant sur l'esprit d'ouverture et l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son investiture pour le deuxième quinquennat, se référant au discours du président de l'AMUKA, M. Martin Fayulu Matidi, sur sa disponibilité à l'ouverture, au desiderata d'une grande frange de la classe politique actuelle de l'opposition, écoutant les différents messages de pères des églises catholiques et protestantes, de chefs des autres confessions religieuses, ainsi que des leaders de la société civile qui prônent l'unité et la cohésion nationale, nous lisons dans le regard de chaque acteur la volonté de voir autrement la réalité et de mutualiser les efforts en mettant de côté les divergences politiques afin de montrer à la face du monde et aux ennemis de la nation que pour l'unité et la souveraineté de notre pays, nous sommes prêts à nous asseoir pour sortir de ce gouffre qui perdure et qui cause notre instabilité sécuritaire et sociale.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans le sommaire, fin de la grève des enseignants dans le Tanganyika. Les activités scolaires reprennent ce lundi dans toutes les écoles publiques de la province. Annonce faite hier à Kalemie par la synergie des syndicats des enseignants. Après 3 semaines de grève sèche, les syndicats des enseignants reconnaissent que le gouvernement a répondu favorablement à leurs revendications. Écoutez à ce sujet Zachary Moma, rapporteur de la synergie des syndicats des enseignants, propos recueillis par Paulin Munanga.
Consécutivement à la déclaration syndicale du 31 août 2024 tenue à l'Institut en combat, au cours de l'Assemblée générale des enseignants et aboutu à la non-reprise des activités scolaires le lundi 2 septembre 2024 jusqu'à la concrétisation des promesses du gouvernement. À cet effet, les enseignants ont constaté ce qui suit. Le paiement complémentaire de la prime de gratuité pour les enseignants des écoles primaires publiques, le paiement complémentaire du salaire du mois d'août comme convenu à Bibois, tout en état de cause. Les syndicats CINEP, Espoir, CIECO, CINAPE, CSC, FENECO INTC, CICECO décident de la reprise d'activité scolaire dès ce lundi 23 septembre 2024 sur toute l'étendue de la province de Tanganyika. Toutefois, nous demandons au gouvernement de continuer à concrétiser les restes des promesses convenues à Bibois.
Au Sud Kivu, par contre, toujours pas de compromis entre le banc syndical et les autorités provinciales de l'EPST au sujet de la grève des enseignants de cette province. Ceci ressort d'une rencontre vendredi soir entre les deux parties à Bukavu. Les autorités provinciales ont expliqué aux syndicalistes les efforts et les difficultés du gouvernement. Les syndicalistes, eux, ont présenté le calvaire que traverse l'enseignant congolais. En somme, pour les syndicalistes, seul le vote et la promulgation de l'édit portant Fonds pour les frais innovants en province peut sauver cette année scolaire. Jacques Chirimwami, secrétaire provincial du Sinecat, explique dans ses propos recueillis par Rachel Kiesé.
Nous venons de terminer la rencontre avec les autorités provinciales de l'EPST. Nous avions répondu à leur appel. Selon leurs soucis, ils voulaient qu'on puisse lever la grève. Nous avions dit qu'on n'était pas compétent pour lever cette grève déclenchée dans une assemblée générale par les enseignants. La proposition du gouvernement est l'octroi de 50 000 francs comme augmentation du salaire des enseignants. Et après calcul, les enseignants ont trouvé que malgré les 50 000, ils ne réalisent même pas 100 $ alors qu'ils demandent 500. Et c'est comme ça que nous, étant esclaves de la base, nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous n'enseignons pas dans toutes les classes et nous nous sommes agenouillés à la décision de la base. Nous constatons l'abandon du gouverneur de province et notre ministre de l'EPST. Nous avions pensé que pour cette question capitale, il pourrait aussi réunir les enseignants et leur parler en face pour qu'ensemble on trouve une solution.
Direction le Kasaï oriental. La société minière de Bakwanga Miba dispose d'un plan minimum de relance des activités minières évalué à près de 50 millions de dollars. Le directeur général de la Miba l'a fait savoir lors d'un point de presse tenu mardi dernier à Mbujimayi à l'intention des médias locaux. Les autorités de la Miba estiment actuellement qu'avec 50 millions, la société peut acheter les engins et organiser la certification des réserves en attendant la disponibilité de plus de 400 millions de financements prévus par le COPIREP en 2022 pour la relance. C'était lors de l'atelier de l'élaboration et la validation d'un plan de relance de cette entreprise, atelier organisé à Kinshasa. André Kabanda, directeur général de la MIBA, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons tiré un plan minimum, notre plan de travail de 50 millions, axé essentiellement sur la production. De ce plan, nous mettions 30 millions dans l'outil de production, c'est-à-dire les engins de mine. Il y avait 10 millions que nous pensions pouvoir utiliser pour la certification et puis 10 millions fonds de roulement et frais de fonctionnement. Voilà notre plan minimum. Sans parler de la dette sociale, parce que ça, nous ne pouvons pas assumer cela. Nous sommes convaincus que la MIBA, c'est une société commerciale. Sans production, rien ne se fera. Il faut produire. Quand nous sommes arrivés, tous les engins étaient par terre. Nous avons, avec les moyens de bord, mis en marche quelques engins, 3 ou 4, et nous avons lancé la production en décembre. Le premier mois et demi, donc janvier et 15 jours du mois de février, nous avons produit 53 000 carats. Preuve que, avec un peu de moyens, nous pouvons produire, quitte à renforcer cette production avec les outils que nous pouvons ajouter au fur et à mesure, et cela pourrait nous permettre de régler tous les autres problèmes. C'est ça notre vision.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. El Fasher, capitale historique du Darfour, est assiégée depuis plusieurs mois par les paramilitaires du général Hemeti, une ville dans laquelle la population continue de payer un lourd tribut. Tout semble indiquer que Hemeti tente d'engager une grande offensive alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'apprête à s'épancher sur la guerre entre les deux généraux rivaux qui déchirent le Soudan depuis avril 2023. Par ailleurs, les États membres de l'ONU s'engagent à adopter une série de mesures destinées à offrir un avenir meilleur pour l'humanité. Le texte promet notamment de réformer le Conseil de sécurité en y renforçant la place de l'Afrique.
L'invité.
Nous recevons, comme annoncé, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix a bouclé vendredi sa visite de 5 jours en RDC. Dans une interview exclusive accordée à Radio Capi, le chef des opérations de maintien de la paix revient sur les grandes conclusions de sa mission au pays. Jean-Pierre Lacroix répond aux questions de Gabriel Ouaménia.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une visite au Nord Kivu et en Ituri, deux provinces affectées par l'insécurité et les conflits armés. Comment évaluez-vous la situation à ces jours?
Eh bien,
clairement, et tout le monde le sait, la situation, tant sur le plan sécuritaire que humanitaire, est encore très préoccupante. J'ai eu l'occasion de le voir, en particulier lorsque je me suis rendu à Saké. On voit tous ces camps de personnes déplacées. J'ai eu aussi l'occasion de visiter l'Ituri et une zone, le territoire de Djougou. Il y a encore des conflits et notamment il y a eu récemment des affrontements. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des raisons d'espérer, parce que il y a d'abord des efforts diplomatiques qui sont actifs. On parle du processus de Luanda sous la facilitation de l'Angola. Ce processus a déjà conduit à l'accord du cessez-le-feu du 30 juillet et tous mes interlocuteurs m'ont dit que, à la suite de cet accord, le niveau de violence a baissé dans la zone affectée par les offensives du M23. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence, mais ça a baissé. C'est un bon début. Et il faut évidemment que ce processus continue, enregistre de nouveaux progrès.
Au Nord Kivu, vous avez visité Mubambiro, ce quartier général des différents contingents de la force onusienne et d'autres forces, notamment la SAMI-RDC et les FARDC. Comment appréciez-vous la collaboration entre ces différentes forces face à la menace du M23 appuyée par les Rwandais?
C'est une collaboration qui est en train de se développer parce que la SAMI-RDC n'a acquis que récemment un niveau d'effectif qui est presque conforme à l'objectif recherché. Et de notre côté, la MONUSCO n'a reçu que récemment du Conseil de sécurité un mandat pour renforcer son soutien, notamment dans les domaines logistiques, soutien médical, transport, et échange de renseignements, soutien à la SAMI-RDC. Et donc, j'ai rencontré le Force Commander de la SAMI-RDC. Nous sommes résolus à faire avancer le plus vite possible cette coopération renforcée, à la concrétiser. La coopération avec les FARDC également se renforce et c'est une bonne chose parce que il faut un partenariat solide, il faut faire en sorte qu'il y ait une synergie entre ces différentes présences, que cette masse critique de présence en uniforme qui a les mêmes objectifs soit le mieux utilisé possible.
Monsieur Lacroix, à Kinshasa, vous avez eu des entretiens avec les autorités congolaises, de même vous avez aussi rencontré l'opposition, notamment Martin Fayulu, qui plaide pour un dialogue national pour faire face à l'agression à l'est du pays. Quelle est votre position à ce sujet?
S'agissant de la question du dialogue national, nous ne pouvons être que favorables d'une manière générale à la promotion du dialogue. Je pense aussi qu'en complément des efforts diplomatiques, dans le cadre du processus de Luanda, il sera indispensable que se renforce aussi un dialogue intercongolais, notamment pour faire avancer la question du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration des combattants, des groupes armés. C'est un processus congolais. Donc,
parlant justement du processus de Luanda, Michel Lacroix, plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Un cessez-le-feu a été même décrété, souvent violé. Quelle pourrait être la contribution des Nations Unies pour un cessez-le-feu durable?
Effectivement, il y a encore trop de violence, même si le cessez-le-feu du 30 juillet a conduit à une diminution du niveau de ces violences. La MONUSCO s'est engagée à soutenir le mécanisme de vérification et de suivi du cessez-le-feu qui est dirigé par un général Nassone, un général angolais. Et ce mécanisme va se renforcer, c'est-à-dire de vérifier le respect ou le non-respect du cessez-le-feu, de faire des rapports et donc de mettre la pression sur tous ceux qui doivent opérationnaliser le respect.
Voilà, peut-être avant de terminer, M. Lacroix, avec les autorités congolaises, vous avez parlé certainement du désengagement ou retrait de la MONUSCO de la RDC. Pouvez-vous nous dire un mot à ceci?
Lorsque nous avons évoqué cette question avec les autorités, d'abord, ce que nous avons entendu de manière très répétée de la part des autorités, de manière insistante, c'est surtout des attentes quant au rôle de la MONUSCO et quant à la coopération entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour la période à venir. Lorsque nous allons à la rencontre des populations qui bénéficient de la protection ou de la présence de la MONUSCO, nous n'entendons qu'un seul message, c'est des attentes et on nous demande de faire plus et de rester. On ne nous demande pas de partir. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par la MONUSCO et bien sûr avec nos collègues humanitaires qui font un travail exceptionnel.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix répondait aux questions de Gabriel Wamenya. Notez que Jean-Pierre Lacroix vient de boucler sa mission de 5 jours en République démocratique du Congo. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.